émission.
Eh oui, on se retrouve le 12 avril, tout à fait, pour une émission dont on n'a pas encore trouvé le thème.
Non, on va y penser. On a un petit peu de temps pour y réfléchir.
Oui, on a un peu de temps.
On vous laisse sur ce dernier titre et on vous dit au mois prochain. Voilà, à bientôt.
Tout à fait, à bientôt. Bonsoir à toutes et à tous et bonne soirée à toutes et à tous sur Radio Libertaire 89.4 FM.
Ciao.
Salut.
Toyi gahugu kaniniya warapfunywe ni wapfuye waragowe ni wagoka gahugu gatoyi gahugu kaniniya.
Une feuille et un stylo apaisent mes délires d'insomniaque loin dans mon exil, petit pays d'Afrique des grands lacs. Remémorer ma vie naguère avant la guerre, trimant pour me rappeler mes sensations sans rapatriement. Petit pays, je t'envoie cette carte postale, ma rose, mon pétale, mon cristal, ma terre natale. Ça fait longtemps les jardins de Bougainvilliers, souvenirs enfermés dans la poussière d'un bouquin plié. Sous le soleil, les toits de tôle scintillent, les paysans défrichent la terre en mettant le feu sur des brindilles. Voyez, mon existence avait bien commencé, j'aimerais recommencer depuis le début, mais tu sais comment c'est. Et nous voilà perdus dans les rues de Saint-Denis. Avant qu'on soit sénile, on ira vivre à Guisséni. On fera trembler le sol comme les grondements de nos volcans. Alors petit pays, loin de la guerre, on s'envole quand.
Gaugu gatoyi, gaugu kaniniya, warapfunywe ni wapfuye, waragowe ni wagoka. Gaugu gatoyi, gaugu kaniniya.
Petit bout d'Afrique perché en altitude, je doute de mes amours, tu resteras ma certitude. Réputation recouverte d'un linceul, petit pays, pendant 3 mois tout le monde t'a laissé seul. J'avoue, j'ai plaidé coupable de vous haïr quand tous les projecteurs étaient tournés vers le Zaïre. Il fallait reconstruire mon petit pays sur des ossements, des fosses communes et puis nos cauchemars incessants. Petit pays, te faire sourire sera ma rédemption. Je t'offrirai ma vie, à commencer par cette chanson. L'écriture m'a soigné quand je partais en vrille, seulement laisse-moi pleurer quand arrivera ce maudit mois d'avril. Tu m'as appris le pardon pour que je fasse peau neuve, petit pays. Dans l'ombre, le diable continue ses manœuvres. Tu veux vivre malgré les cauchemars qui te hantent. Je suis semence d'exil d'un résidu d'étoiles filantes.
Gaugu gatoyi, gaugu kaniniya, warapfunywe ni wapfuye, waragowe ni wagoka. Gaugu gatoyi, gaugu kaniniya.
Un soir d'amertume, entre le suicide et le meurtre, j'ai gribouillé ces quelques phrases de la pointe neutre de mon feutre. J'ai passé l'âge des pamphlets quand on s'encanaille, je connais.
Bonsoir, c'est le moment des amis d'Orwell.
C'était la patrouille de police.
Snooping into people's windows.
Qui fouinait en regardant à travers les fenêtres des
gens. The patrols did not matter, however.
Seul comptait.
Only the thought police mattered.
La police de la pensée.
Cette semaine, on s'intéresse à la lutte des mineurs, ces jeunes migrants dont la minorité n'a pas été reconnue par les services de l'État. Ils sont des centaines à Paris à survivre dans des conditions ignobles, tout en devant se battre pour leurs droits dans les procédures inhumaines et racistes dont la France a le secret. Tout cela aggravé par l'imminence des Jeux Olympiques. MNA pour mineurs non accompagnés, c'est le terme technocratique pour désigner ces personnes migrantes qui sont encore des enfants. Des enfants qui doivent eux-mêmes prouver leur minorité auprès d'associations agréées par l'État lors d'entretiens très éprouvants pendant lesquels leur histoire est rarement prise au sérieux. Après un voyage d'une violence extrême pour parvenir en Europe, lorsqu'ils parviennent à conserver les papiers d'identité de leur pays d'origine, Seule la police aux frontières peut valider leur authenticité. Lorsqu'ils n'ont aucun papier, c'est encore pire, elles subissent les fameux tests osseux, inhumains et dégradants, qui n'ont aucune fiabilité scientifique. Mais au bout du compte, ces jeunes mineurs doivent attendre plusieurs mois avant que leur affaire puisse être examinée par un juge des enfants et bénéficier de la protection que l'État français doit leur apporter. Et bien entendu, en attendant que leur statut soit clarifié, ils ne sont ni mineurs ni majeurs, ils n'existent pas aux yeux des administrations. Alors leur lutte à Paris a pris une dimension particulière en septembre 2023. Ils se sont organisés en collectif avec l'aide active d'habitants solidaires du 20e arrondissement, en sachant que la plupart d'entre eux s'étaient réfugiés l'été dernier dans le jardin du parc de Belleville. Alors, en attendant, vous l'avez compris, ils survivent dans des camps de fortune sous les ponts de Paris. Certains sont hébergés quelques jours, voire quelques semaines, dans des gymnases réquisitionnés par la mairie. Alors que la fin de la trêve hivernale, le 31 mars, va encore les précariser davantage, sans parler de l'imminence des Jeux Olympiques qui ne va rien arranger. Nous avons rencontré dans le cadre de cette émission une bénévole d'une association, le Centre Tara, qui les accompagne dans leur parcours administratif, et vous l'entendrez en deuxième partie. Alors que mairie de Paris et préfecture se renvoient la balle, le collectif leur donne de la force. Ils ont multiplié des actions de visibilité, comme l'occupation de l'Académie du Climat au centre de Paris il y a quelques semaines, et nous les avons rencontrés fin février lors d'un rassemblement organisé justement devant le tribunal judiciaire de Paris.
Pourquoi vous êtes là aujourd'hui ?
Aujourd'hui, nous sommes là pour réclamer notre droit. En fait, y a beaucoup de jeunes qui sont abandonnés dans la rue, qui n'ont pas lieu à dormir, et puis ils sont en recours plus de 8 mois, 7 mois, dormir. En fait, c'est un peu bizarre. On est venu juste pour dire au gouvernement, au peuple français, d'essayer de voir la situation des jeunes mineurs. C'est un peu compliqué pour nous. On a traverser beaucoup de choses au dehors, il n'y a pas de soutenance ni rien. On est là pour ça.
Et le tribunal, c'est un symbole, c'est...
Ouais, c'est parce que c'est eux qui prouvent que nous sommes mineurs ou quoi, c'est eux qui peuvent dire toutes choses. Donc on est là pour leur prouver qu'on est en train de souffrir au dehors.
Parce que c'est les juges qui décident si on est mineur ou pas, plus ou moins de 18 ans, c'est ça?
Justement, c'est eux qui prouvent la minorité. Donc on est là pour leur montrer la manière dont on souffre au dehors, pour savoir, ouais, les enfants souffrent beaucoup.
Okay. Et vous étiez à... Vous avez occupé un bâtiment de la mairie de Paris, là
Oui, on a fait beaucoup de manifestations à la 21e, à la 19e. Beaucoup, la mairie, presque tout le monde nous connaît, mais aujourd'hui, c'est ici qu'on va essayer aussi de voir ce qui va se passer. Parce qu'on est beaucoup, tout le monde n'est pas venu d'abord, on attend.
Vous êtes en gros combien ?
Bon, on est nombreux, centaine, on n'a pas de limite. Plusieurs, on dépasse. Ça dépasse centaines, millions, il y en a beaucoup plus. Bon, c'est un hébergement qui a des limites des fois, parce que la mairie, eux, parle à l'incertitude. Ils n'affirment jamais.
D'accord, c'est ça.
Ils parlent à l'incertitude. Ils peuvent nous mettre dehors de n'importe quel moment. Donc, nous, on n'a pas de...
Vous êtes dans un gymnase, c'est ça, encore ?
Justement, on est dans un gymnase de nombreux de 150 personnes, imagine. C'est un peu bizarre.
Ouais. Et on vous a laissé une durée ou vous a dit combien de temps ou au moins pour... Non,
bon, le premier hébergement, la durée, on a dit le mois de mars, fin de mars. Ils vont essayer de mettre les gens dehors. Okay. Fin de mars. C'est ça qui a été dit par la mairie de Paris.
Merci,
hein.
Courage. Hein.
Merci, monsieur.
Moi, mon nom, c'est Ibrahim. Bon, aujourd'hui, nous sommes rassemblés devant le tribunal de Paris pour ensuite venir faire des dénonciations. Voilà, concernant dans la situation dont on vit, bon, la première des choses d'abord, c'est la durée des recours. Parce que les recours peuvent aller au-delà de 6 à 7 mois. Bon, nous avions trouvé ça trop. Donc nous sommes venus dénoncer. Et la deuxième aussi, c'est l'évaluation. Parce que généralement, chez nous en Afrique, bon, lorsqu'on va à les évaluations, les éducatrices ont tendance à nous demander l'âge de nos parents. Bon, chez nous en Afrique, c'est très difficile pour un jeune de connaître l'âge de ses parents. Bon, lorsque tu n'arrives pas à donner l'acte exact de tes parents, bon, ils trouvent que non, bon, je n'ai pas répondu à la question, donc ils te refusent. Donc d'accord. Nous sommes venus dénoncer ça. La troisième étape aussi, c'est lorsque les éducatrices vous posent des questions. Bon, eux se disent quoi de les regarder face aux yeux pour répondre. Oh, pourtant, chez nous en Afrique, lorsque une personne âgée te parle, bon, pour le signe de respect qu'on nous inculque, c'est de abaisser ta tête, de ne pas lui regarder droit dans les yeux.
Okay.
Voilà, donc nous voulons faire toute cette dénonciation aujourd'hui.
Et toi particulièrement, tu es là depuis combien de temps?
Bon, moi, je suis là à Sao maintenant 4 mois.
D'accord. Aujourd'hui, vous êtes hébergé dans un gymnase jusqu'à fin mars.
Oui, nous sommes hébergés jusqu'à fin mars. Bon, on trouve ça anormal, dans la raison pour laquelle nous sommes sortis aujourd'hui venus manifester. Parce que lorsqu'ils veulent nous loger, que ça soit indéterminé, mais nous loger un mois, deux mois et puis après nous mettre au dehors, vraiment, c'est inacceptable.
Oui, je m'appelle Dion, donc je fais partie d'un collectif qui s'appelle 20e solidaire avec tous les migrants et toutes les migrantes, qui existe depuis des années dans le 20e à Paris, et qui lutte à côté du collectif des sans-papiers du 20e, et voilà, qui se mobilise aussi contre le fascisme et contre le racisme depuis toujours. Et voilà, on va dire qu'on articule nos luttes aussi avec la marque des solidarités, avec le collectif des sans-papiers au niveau national, mais notre idée, c'est surtout faire un travail dans le local, de lien avec les assos, les habitants des quartiers populaires.
Donc ça a commencé plus ou moins avec le collectif des jeunes de Belleville, c'est ça, du parc de Belleville?
Alors,
c'était déjà présent, le sujet était déjà présent au cœur de vos préoccupations, voilà. J'imagine. Mais...
Donc notre collectif, il existe depuis des années, mais en effet, quand on a su qu'il y avait des jeunes mineurs qui était au parc de Belleville, donc c'était cet été, quoi, l'été 2023, bah, on s'est forcément rapproché d'eux, on est allé les voir, et à ces moments-là, ils étaient très nombreux, mais on va dire qu'ils étaient quelques centaines, quoi, des jeunes qui dormaient là-bas, mais ils se cachaient, disons qu'ils étaient, ils faisaient tout le possible pour rester invisibles, parce qu'ils avaient vécu des trucs très très durs, ils avaient été fortement réprimés par les forces de l'ordre, etc. Quand ils avaient fait des actions avec Utopia et compagnie. Et du coup, nous, on a repris petit à petit peu, enfin, on a pris le contact avec eux et petit à petit, on a proposé des choses, donc des petits déjeuners à l'amphithéâtre au jardin de Belleville, le mois de septembre. Et en gros, l'idée du collectif et des habitants qui se sont joignés à nous aussi, c'était comment lutter avec eux et pas à sa place. Et comment faire pour que les aider à s'organiser,
que ça reste autonome entre eux, mais que vous soyez là en soutien, mais pas à leur place et pas surtout parler à leur place.
Voilà. Donc ça, c'est l'idée. Bon, c'est tout se construit au fur et à mesure. Rien est acquis du début. Mais en tout cas, ça a été toujours l'objectif. Et du coup, petit à petit, bah, on a tous pris confiance et on s'est connus, on a fait beaucoup de repas aussi avec des mamans du quartier, donc Edwige, Stéphatou, des collectifs aussi des mamans du quartier. Et petit à petit, bah, on a gagné tous en confiance. Au début, ils ne voulaient pas faire des manifs ni des actions. Mais suite à une grosse opération d'évacuation qui a eu lieu le 19 octobre, menée par la préfecture mais accompagnée par la ville de Paris, et suite à ça, ils se sont retrouvés tous après à la rue, quoi. Bah, les jeunes, ils ont repris contact avec nous Et on a organisé une première action. Donc on a occupé la maison des Lairs au jardin de Belleville. Et on a obtenu une vingtaine de places d'hébergement pour des jeunes qui étaient du collectif. Et à partir de là, voilà, on s'est organisé. On a fait beaucoup de réunions toutes les semaines, 2-3 fois par réunion par semaine, avec des repas. On a fait une cagnotte. Avec cette cagnotte-là, on paye des tickets de transport et on paye des repas. Donc on a déjà eu 10 000 euros de la part des syndicats, des collectifs, des particuliers. On a organisé d'autres actions. On est rentré à l'Hôtel des Vignes. On a coupé le discours de Madame Hidalgo à la journée des solidarités. Et donc on a obtenu aussi des places de l'hébergement suite à cette action-là. On a occupé l'Académie du Climat. On a fait aussi des actions à la mairie du 20e. Voilà, le collectif, petit à petit, il a sa structure. Il y a des délégués qui représentent des différents campements et des différents lieux. On s'est réunis avec les soutiens. On essaye de voir à chaque fois comment on peut faire avancer dans la lutte. Et au-delà de l'hébergement, aussi la question de l'école, de la santé. Parce que finalement, ce qu'il faut voir, c'est que ces problèmes-là, le problème des jeunes mineurs, il n'est pas visibilisé. Donc comment on le rendre visible et comment assumer aussi que c'est une lutte antiraciste, quoi. C'est vraiment, on est au cœur du racisme, parce que là c'est la double peine des jeunes mineurs qui peuvent pas se mobiliser, qui peuvent pas s'auto-organiser et qui peuvent pas avoir sa parole, quoi. Et qui ont droit à rien. En fait, ils n'ont pas droit à l'hébergement, ils n'ont pas droit à l'école, ils n'ont pas droit à la santé, à la ME, ils n'ont droit à rien, quoi. Donc on est vraiment au cours d'une lutte antiraciste.
Et justement, si on veut vous aider, comment on fait pour vous joindre? Est-ce qu'il y a, je sais pas, il y a des pages internet?
Alors, tout
ou
ça,
des cagnottes?
Oui, donc au niveau de la com, on essaye maintenant, à partir de maintenant, de proposer des outils. Il va y avoir bientôt un compte Instagram. Et il y aura aussi bientôt une campagne avec des visuels, des collages, des affiches. Mais en tout cas, pour l'instant, on travaille en présentiel. Donc, il y a tous les lundis, il y a une réunion. Et soit à la bourse de travail, soit à la maison du Babelville, à la rue Ramponneau, dans le 20e. Et des fois, on fait d'autres réunions à la FASTI ou ailleurs. Mais bon, voilà, il faut venir nous rencontrer, okay, à choper les bons contacts, et puis une fois que t'es dans le truc, bah c'est parti.
Juste pour finir, qu'est-ce que t'as compris, toi, du parcours administratif d'un mineur quand il s'installe, quand il arrive en France?
Ah oui.
Qu'est-ce qui semble le plus aberrant, quoi?
Ouais, les jeunes mineurs, ils arrivent en France et ils subissent une évaluation raciste, c'est eux qui le disent, et du coup, ils sont refusés systématiquement. Avant, quand ils étaient refusés, donc ils posaient un recours et ils passaient un mois ou deux mois en attendant l'audience. Maintenant, ces recours-là, ils peuvent mettre 6 mois, 7 mois, 8 mois. Donc c'est cette zone grise où ils se retrouvent fait que voilà, pendant des mois et des mois, ils ont rien, ils n'existent pas, ils sont ni majeurs ni mineurs et ils n'existent pas, quoi. Donc ça, c'est vraiment le plus aberrant, de voir que les jeunes mineurs, ils sont traités de cette manière-là, ils sont mis à la rue tout de suite. Mais il faut savoir que même ceux qui sont reconnus après, c'est un parcours de combattant, parce qu'arriver à avoir une prise en charge au niveau de l'éducation, de la santé et du transport, c'est une galère. Maintenant, les jeunes qui sont là dans le collectif et qui sont en recours, il faut savoir que tout ce qu'ils font la journée, c'est bouger son carte Navigo, bouger pour aller chercher des trucs alimentaires, pour avoir des plans, pour garder la place là où il dort, parce que c'est vraiment une lutte de survie de tous les jours.
Au quotidien, ouais.
Merci. Donc c'est la réunion du collectif des jeunes du parc de Belleville. Ça réunit les jeunes des différents gymnases et des différents campements à Paris et à côté, Bobigny, etc. On va commencer par les différents délégués du collectif qui vont présenter les nouvelles de la semaine. Qu'est-ce qui s'est passé dans les gymnases? Qu'est-ce qui s'est passé dans les campements? Et il y a Fouzeli qui va commencer.
Bonsoir, je m'appelle Fouzeli. Je suis du collectif des jeunes du parc de Belleville, qui s'organise depuis des mois et des mois pour le respect de ses droits, qui est logement, la santé.
Je m'appelle Foussini, Je suis malien d'origine et de nationalité. Je suis à Paris depuis le mois de novembre, que j'ai passé ma minorité qui n'a pas été reconnue. Voilà. Depuis ça, nous sommes dans la galère, dans une situation très précaire, et qu'on trouve une solution depuis le mois de novembre, mais jusqu'à présent, voilà, pas une solution idéale et très adéquate à notre minorité.
Tu parles de novembre 2023, c'est très récent.
Novembre 2023, c'est récent comme ça. Depuis novembre 2023, voilà, que ma minorité n'a pas été reconnue. Et je suis à la rue, voilà, et que j'ai fait un lien avec le collectif du 20e solidaire, qui est en lien en même temps avec le collectif des jeunes du parc de Bellevue, qui a été créé depuis le mois de septembre passé 2023. Avant que moi je ne vienne, le collectif était en place, mais lorsque j'étais là depuis le mois de novembre, je me suis adhéré dans le groupe, et maintenant on lutte, on trouve des solutions pour tous les mineurs de Paris.
Qu'est-ce qui est le plus difficile pour toi aujourd'hui, c'est vivre au jour le jour ou de trouver une situation juridique qui soit un peu stable?
Là, presque moi, je dirais que toutes les deux idées, ça me paraît très difficile, parce que vivre le jour au jour dans une situation très précaire, c'est insupportable. Et juridiquement aussi, ça tarde, parce que depuis le mois de décembre, j'ai déposé le recours avec toutes les pièces qu'ils demandent, mais jusqu'à présent, voilà, pas d'appel juridique, on attend toujours des résultats, pas d'idées concrètes sur là-dessus, quoi.
Est-ce que tu as réussi à comprendre le parcours administratif ?
Là, je n'arrive pas à me situer juridiquement, comment ça se passe, comment ça se fait, parce que, voilà, ils disent que vous appelez les avocats pour trouver des nouvelles de ta situation, ils disent qu'ils n'ont pas de solution, c'est à la juge de décider, une fois que tes documents quittent à l'expertise à la police frontière, que voilà, la juge peut trouver une date idéale pour toi, pour que tu passes l'audience, pour connaître si tu es mineur ou pas, voilà. Donc avec ça, nous on s'est dit, ça prend du temps, vouloir rester au dehors des mois et des mois. Et parfois, il y a d'autres jeunes qui attendent des mois, et qu'ils ne sont pas reconnus mineurs aussi, même en recours. C'est la galère totale pour les jeunes aussi, qui ne sont pas scolarisés en même temps. Et la santé personnelle est précaire. Le collectif, ça a été créé depuis le mois de septembre, mais qui sont là, le 20e solidaire qui s'est fait un lien avec le collectif des jeunes du parc de Belleville, qui se lutte de nos côtés pour réclamer nos propres droits, parce que à un moment donné, on avait peur d'aller vers l'administration, vers l'État, réclamer nos propres droits, mais voilà. Et le collectif était là pour nous dire, n'ayez pas peur, voilà. Ils disent qu'ils ont signé la convention et la France aussi a ratifié depuis des années, voilà. Le droit d'enfant, ça doit être, voilà.
Sur les droits de l'enfant.
Sur le droit de l'enfant, ben, la France ne respecte pas, quoi. Parce qu'on s'est dit, voilà, les jeunes sont à la rue. Pourquoi? Alors, ils ont signé la convention et puis ça a été ratifié par les Français. Et on voit que c'est pas, la constitution n'est pas respectée par même les Français, quand même.
Et en termes d'expertise, est-ce que toi, tu as subi les fameux tests, soi-disant scientifiques, pour savoir si ou pas tu es mineur? On parle des tests osseux, etc.
Non, moi, j'ai pas subi ça d'abord, parce que mes documents, mes pièces sont à la police frontière. Donc, moi, j'attends la réponse de la police frontière, voir si bon, c'est favorable ou défavorable pour moi.
Est-ce que tes papiers du Mali étaient peut-être suffisants, c'est ça?
Ouais, j'ai déposé le papier malien, voilà. J'attends la réponse de la police frontière, parce que voilà, c'est la pièce que j'ai déposée, c'est mon extrait d'admissions, voilà. Que j'attends la réponse de la police frontière du résultat avant que la juge ou le juge donne une date pour l'audience, quoi.
Est-ce que tu as participé à l'occupation là, à l'Académie du climat, il n'y a pas longtemps?
Oui, en gros, j'étais là parce que nous, depuis le mois de novembre, moi j'étais devant l'école Saint-Merry, et il y a le premier collectif qui avait fait une grosse action de 200 personnes à la rue devant l'école Saint-Merry, dans le 4e. Et le collectif était là qui a monté. Et puis, ils sont venus en aide aux jeunes et à des familles et des bébés de 2 à 3 mois qui étaient là, qui dormaient avec nous, les jeunes, ensemble. Donc, on avait fait une action au début du mois de décembre que Mme Hidalgo faisait ses vœux. Et au début, voilà, à la mairie centrale, justement, on est parti, on a un peu interrompu son discours. Voilà, on a été reçu par une délégation de la mairie, qu'on a débattu le sujet de 19h à 0h pour trouver une solution. Et du coup, ils ont ouvert la même nuit le gymnase pour 150 jeunes et ils ont pu héberger les familles aussi qui étaient à la rue. Et on a reçu maintenant que il y a des places, il y a la solution, mais c'est la volonté qui manque à l'État et à la mairie, quoi.
Vous êtes toujours dans Les Amis d'Orwell sur Radio Libertaire. Nous sommes en compagnie des jeunes migrants isolés de Paris. Après la pause, on vous propose un entretien avec Kaina, qui est bénévole pour le centre Tara, qui est la seule association en ce moment qui les accompagne dans leur parcours administratif. Le morceau qui suit nous a été conseillé par Fousseini, justement, que nous retrouverons un peu plus tard dans l'émission. C'est le morceau Flouka de l'artiste Zamdan.
Mon cœur n'est pas alloué. Je viens du sud, mais depuis petit, ma tête est à l'ouest. Maman, je t'aime, papa, où t'es? Au bled, je voulais prendre mon envol avec les alouettes. Avec ma famille, on a tous une histoire. Combien de pères de naissance et de décès? Quand je brûle, j'éteins, mais je ne raconte pas. Flas Rodi, l'attentat. J'ai traversé l'Espagne dans un Honda pour chercher mon trésor, même s'il m'attend pas. J'aime quand tu souris et que tu dis que tu m'attends. Pas quand tu pointes nos soucis sur ma tempe. Comme si c'était un gun bien chargé. Je vais vous raconter une histoire. C'est chacun sa part de chance, chacun sa part de malheur. Et des fois, la chance c'est maléfique, et le malheur c'est bénéfique, en vrai. 4h du mat, je me réveille, je fais une prière. J'espère que Dieu va bénir ma traversée. Je sais que je vais revoir dans la grandeur de l'océan les larmes que ma mère n'a pas versées. J'ai mon sac et sort. Sans faire de bruit chez moi, personne doit savoir. Aujourd'hui j'ai rien, alors je suis personne. Demain je serai quelqu'un, car demain je vais avoir. À 7h du mat, je vois le ciel. Et les oiseaux s'envolent et on bonde. Je suis avec deux frères, on sait qu'on a peu de chance pour qu'on survive ensemble. Je sens le sel sur ma peau. Olida s'inquiète, elle m'appelle. Si je réponds, je lui dis quoi? J'ai vu à cause de la pauvreté de mon pays, c'est de sa faute. On m'a dit que la France est si belle, des opportunités de travail. Dans ma tête, j'ai plein de rêves, très loin des champs de bataille. Si cette fois ma chance m'est fidèle, promis, je m'éloignerai du mal. Je peux plus faire marche arrière, il est déjà 11h du mat. Bref, la vie c'est un voyage, mais pour nous ça démarre à la flouka. Ah, ah, combien de noyades ont été causées par cette flouka. Ah, ah, effacer tous mes souvenirs, j'aimerais effacer tous mes souvenirs. Des fois où ils disaient que j'étais inapte, des fois où ils disaient que j'étais inapte. Effacer tous mes souvenirs, effacer tous mes souvenirs. Nadim Kham Jajere, Nadim Kham Jajere, toi. Ah, 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 ah,
Moi, c'est Kaina, je suis de l'association Centre Tara, je suis bénévole et co-responsable du pôle juridique de l'association. Nous, on est spécialisés dans le suivi des procédures juridiques, administratives, sociales des mineurs non accompagnés en recours. On suit aussi quelques jeunes majeurs étrangers et on fait de l'accès à la culture à travers des sorties culturelles. Ben moi, du coup, je suis pas du tout juriste. J'ai appris sur le terrain en étant bénévole auprès des jeunes. Il fallait apporter une aide juridique et administrative en plus de l'aide matérielle, parce que ben, donner des tentes et des couvertures, ça sauve. Mais qu'en fait, s'il y a aucun suivi des démarches derrière, ben, les tentes, on y reste à l'intérieur. Et donc, on s'est formé comme on pouvait. Il y a quelques juristes au sein de l'association, mais moi, pas du tout. Je suis en master de sciences politiques. Et en fait, c'est des procédures qui sont finalement assez simples parce que redondantes, et que dans la très grande majorité des cas, en fait, c'est les mêmes démarches à faire. Dans le cas d'un mineur non accompagné en recours, quand il arrive en France et qu'il se déclare mineur, la première étape, c'est de passer par un dispositif d'évaluation de minorité. Il y en a dans chaque département en France, et c'est un lieu dans lequel des évaluateurs vont faire des entretiens avec chacun des jeunes d'environ 30 minutes et leur poser des questions pour essayer de remplir un faisceau d'indices qui pourrait prouver l'âge allégué par le jeune, c'est-à-dire sa minorité. Ces dispositifs d'évaluation, ils sont réalisés par des associations mandatées par l'État. Par exemple, à Paris, c'est France Terre d'Asile. Dans le 93, c'est la Croix-Rouge qui s'occupe de ces évaluations-là. Il n'y a aucun diplôme d'évaluateur de minorité. En fait, c'est souvent des contrats précaires en intérim de personnes qui font passer ces évaluations-là à travers en fait des rapports typés où on pose systématiquement les mêmes questions à ces jeunes et où en fait une très grande majorité d'entre eux donc sont refusés, leur minorité n'est pas confirmée par ces évaluateurs-là et donc se voient remettre un document qui leur dit nous on considère pas que vous êtes des mineurs au vu des informations que vous nous avez données et la prochaine étape ça va être d'aller déposer un recours de minorité dans un tribunal pour enfants. Si vous voulez contester cette décision. Les refus, ils se font sur la base de raisons qui sont à peu près toujours les mêmes. La manière de parler du jeune témoigne d'une trop grande maturité. La manière de se tenir du jeune témoigne d'une très grande majorité. Ou alors, le jeune n'arrive pas à donner des faits temporels qui puissent confirmer sa minorité. C'est-à-dire que souvent, il ne sait pas quand date le dernier coup d'État, quel âge a ses parents ou quand est mort DJ Arafat. C'est un DJ ivoirien, il me semble, que bon, tous les jeunes connaissent. Donc, on utilise ces choses-là. Enfin voilà, c'est des questions qui sont complètement lunaires. Bon, à telle canne, t'étais où pendant la Coupe d'Afrique et tu faisais quoi? Enfin, c'est un peu des questions qui sont faites systématiquement pour les piéger, quoi. On veut savoir à quelle date ils étaient dans quel pays, ils étaient à quel endroit, avec qui ils étaient, quand est-ce qu'ils sont partis. Et c'est des évaluations qui se passent juste quand le jeune arrive à Paris. Donc en fait, on est en plein dans les traumatismes liés à l'exil. On vient de mettre un pied dans notre destination d'arrivée, on n'a même pas le temps de se reposer parce que le droit au repos n'est absolument pas respecté. Les jeunes, ils se présentent à l'évaluation. Le lendemain, 8 heures pétantes, ils sont convoqués, quoi. Pas le temps de se poser, pas le temps de dormir. Et donc, souvent, ils sont refusés.
Mais tu veux dire que ces questionnaires, c'est les mêmes, en fait, entre les associations, ils se repassent les...
Bah, en fait, les questionnaires, nous, on en voit beaucoup qui viennent des départements de Créteil du 94, Bobigny pour le 93 et du coup Paris. En fait, c'est toujours les mêmes procédés, toujours les mêmes questions. Alors, dans la manière de se présenter en termes de design, ça va être un petit peu différent, mais les phrases utilisées sont les mêmes, les questions posées sont les mêmes et les motifs de refus sont les mêmes.
Ça ressemble un petit peu aux méthodes policières pour faire des entretiens hyper cadrés et pour repérer les petites réponses un peu soi-disant tordues, pour repérer les mensonges ou les falsifications, quoi.
Exactement, enfin, et puis la manière dont sont tournées les évaluations, il y a plein de jeunes qui ne maîtrisent pas forcément bien le français et qui, lorsqu'ils demandent un traducteur, la personne leur dit « non mais ça va, toi tu comprends ». Alors qu'en fait, la réalité, c'est que le jeune joue les prochaines années de sa vie en France à cet instant-là et qu'on leur refuse des traducteurs en malinké, des traducteurs en soussou, en wolof, parce qu'ils viennent d'anciennes colonies françaises et qu'effectivement, ils ont une maîtrise rudimentaire du français, mais donc ils sont capables de s'exprimer souvent et de comprendre. Alors, il arrive souvent que les jeunes arrivent avec souvent des extraits d'actes de naissance. Ce n'est pas pris en compte, ce qui est totalement illégal par ailleurs, parce qu'en fait, dans la loi française, il y a quelque chose qui s'appelle la présomption d'authenticité des documents, ce qui veut dire qu'en fait, seule la police aux frontières, qui a un département de vérification des documents d'état civil, est en fait capable dans ce pays d'établir la véracité ou non de documents d'identité. Si les dispositifs d'évaluation respectaient cette loi-là, je dis pas qu'ils confirmeraient tout le monde, je dis juste qu'ils prendraient la peine d'envoyer ces documents à la DEFDI, à la police aux frontières, pour vérification avant d'émettre un refus à ces jeunes-là. Ce qui n'est pas fait. C'est pris en compte dans le faisceau d'indices. On va voir sur le rapport d'évaluation que le jeune a effectivement présenté des documents, qu'ils ne peuvent pas attester qu'il est vrai ou faux. Par contre, on les refuse quand même.
En proportion, toi, t'estimes à combien Les jeunes qui sont reconnus mineurs, en fait, par rapport aux autres.
Moi, je dirais qu'à la première demande, il n'y a même pas 30% des personnes qui sont reconnues mineures. Et qu'ensuite, les jeunes déposent tout le temps un recours de minorité au tribunal qui dépend du département. Et ensuite, que là, on est sur presque 75%, je pense, d'acceptation, moi, dans ce que je vois, quoi. Alors, le jeune, il se présente donc au tribunal pour dire qu'il veut contester la décision du dispositif d'évaluation et qu'il demande à être représenté par un avocat pour aller voir une juge des enfants, puisque c'est la juge des enfants qui doit trancher, c'est son métier. Les jeunes se voient attribuer un avocat. Ils doivent compléter ce faisceau d'indices qui pourrait prouver leur minorité. Donc ça va passer par le fait de faire venir des documents d'état civil en France, parce que souvent ils les ont perdus en fait durant le parcours d'exil, ce qui représente un coût financier faramineux et qui est une des raisons d'être de Tara. C'est qu'on s'est rendu compte que les jeunes en fait parfois sombraient même dans la délinquance pour réussir à financer des documents d'état civil qui étaient leur seule porte de sortie de la rue. Et donc ça va aussi passer par le parcours d'intégration du jeune en France. Est-ce qu'il va faire des cours de français? Est-ce qu'il fait du sport? Qu'est-ce qu'il a envie de faire? Et tout ça, après, il le discutera avec une juge des enfants. Il y a aussi des tests osseux qui peuvent être demandés.
Alors, ça, j'allais te poser la question, c'est encore en vigueur, ça?
Alors, les tests osseux sont encore en vigueur. Pendant très longtemps, à Bobigny, c'était pas demandé, parce que les juges considéraient pas que c'était un moyen correct de prouver la minorité des jeunes. Aujourd'hui, ça l'est de nouveau. D'accord. Dans tous les tribunaux, il arrive de demander des tests osseux. Nous, ces dernières semaines, on s'est rendu compte, par exemple, qu'au tribunal de Paris, ça devenait presque systématique, même pour des jeunes qui présentaient des documents.
Donc là, c'est à l'étape devant le juge, c'est ça?
C'est là,
le juge
c'est à l'étape du recours. C'est la juge des enfants qui ordonne le test osseux, et le jeune peut accepter ou non. Les jeunes ont le droit de refuser, mais alors, après, soyons francs, si le jeune refuse, on va dire qu'il n'est pas mineur et que donc c'est un menteur, sinon il le ferait. Et les tests osseux, c'est un procédé qui est honteux et que personne ne connaît, mais en fait, les jeunes vont faire des radios du poignet, des dents et parfois de la clavicule, et ces radios-là, des jeunes vont être comparés avec des échantillons de radios réalisés dans les années 40 sur des enfants blancs, bien nourris, qui n'avaient pas vécu de parcours d'exil. Et en fait, c'est les radios avec lesquelles sont comparées les radios des jeunes n'avaient absolument pas pour but de servir à faire ces tests osseux aujourd'hui. C'était vraiment dans une étude scientifique qui n'avait rien à voir, et elles ont été ressorties.
Les années 40, mais...
Ouais, non, pour de vrai. Les radios qui sont utilisées pour être comparées à celles des jeunes, elles datent des années 40, ouais. Okay. Et puis de toute manière, que ce soit moderne ou non, enfin, on parle de conditions de vie totalement différentes.
Comme
quoi.
Une espèce de vernis de légitimité.
Non, mais ils ne font même pas semblant d'essayer d'avoir des protocoles légaux et clairs, parce qu'en fait, tout le monde se fiche de cette question. Personne s'y est jamais vraiment intéressé. Il y a des associations qui ont fait du plaidoyer dessus, il y a même des enseignants-chercheurs et des médecins en fait qui le disent, mais...
Qui s'occupe de ça en fait? C'est des travailleurs sociaux, des médecins, oui, des radiologues?
Dans le cas par exemple d'un jeune qui se verrait demander un test osseux par une juge au tribunal pour enfants de Paris, il va être convoqué au SEMNA, qui est une instance de l'aide sociale à l'enfance, donc départementale. Il va avoir une nuit dans un hôtel social, et le lendemain il sera emmené par un éducateur à l'hôpital Hôtel Dieu, au centre de radiographie, pour avoir ses radios.
Et après, donc, ça dure combien de temps cette...
C'est tout le problème du recours de minorité. À partir du moment où un jeune va aller déposer son recours au tribunal, il va se passer entre 4 et 7 mois pour avoir une date d'audience devant une juge des enfants. Et tout prend énormément de temps. La vérification des documents d'état civil prend entre 1 à 2 mois par la police aux frontières. Ensuite, il faut que les documents reviennent. Si la juge demande un test osseux, le temps d'avoir une date déjà à l'hôpital pour avoir ces radios-là, ça va prendre 3 semaines. Le temps d'avoir les résultats, ça va prendre 1 mois. Le temps que la juge les reçoive et ordonne encore une fois une date d'audience, ça va prendre un temps fou. Et pendant tout ce temps-là, les jeunes en recours sont à la rue parce qu'il n'existe pas de structure d'hébergement pour les mineurs non accompagnés en recours. Ils sont pas assez mineurs pour avoir une prise en charge par l'ASE et ils sont pas assez majeurs pour avoir le droit au 115 et donc au service d'hébergement d'urgence. En fait, c'est qu'on dit qu'ils se déclarent mineurs, mais qu'ils ne sont pas prouvés mineurs, et donc ils ne peuvent pas bénéficier de la protection de l'enfance, jusqu'à ce qu'une juge confirme leur minorité.
Donc c'est pour ça que la réunion de l'autre jour, vous parliez justement des papiers de refus. Dans les foyers, enfin dans les lieux d'hébergement où ils se trouvent actuellement, en ce moment, ils expliquaient qu'ils recevaient des gens de la mairie de Paris qui leur demandaient ces papiers-là. Qu'est-ce que tu en penses de ça, de cette démarche, toi ?
Alors oui, parce qu'en ce moment, il y a 450 jeunes qui sont hébergés dans des gymnases. Donc c'est vu qu'il n'y a pas de structure en fait existante pour les MNA, quand il y a des solutions d'hébergement d'urgence qui sont données, ça se fait beaucoup dans des gymnases. Et donc là, oui, effectivement, on leur demande leurs documents de recours et de refus à l'évaluation. Moi, j'en pense que c'est ordonné par la mairie ou par l'État. On n'a pas la réponse dessus. Moi, j'ai été au gymnase. dans lequel les jeunes ont été convoqués. Et j'ai discuté avec les personnes d'Alteralia qui étaient présentes pour ces entretiens et qui m'ont dit que on leur demandait ces documents-là aux jeunes afin de constituer un dossier au SIAO qui s'occupe des hébergements d'urgence en prévision de la
forme d'orientation des hébergements d'urgence, c'est ça ?
Exactement, mais à la base c'est pour les majeurs. Ouais. Et donc qu'on constituait leur dossier en prévision de la fin de la trêve hivernale et d'une possible fermeture des gymnases pour leur donner des places dans des hébergements en Île-de-France.
Tu sens un peu l'entourloupe, toi ? Tu sens quelque chose de tordu là-dedans ?
Mais moi, je pense que tout est tordu à partir du moment où, en réalité, les solutions d'hébergement d'urgence, que sont les gymnases ou que sont les centres d'examen et d'accueil pour les demandeurs d'asile dans lesquels parfois sont mis les jeunes, en fait, ne sont pas sous la loi qui encadre la trêve hivernale. La trêve hivernale, c'est pour les locataires. Ça n'existe pas. On peut se faire sortir de centre d'hébergement d'urgence à n'importe quel moment de l'année. Et donc, moi, je ne dis pas que la mairie est pleine de mauvaise foi. Je pense qu'il y a une réelle volonté et des réelles tentatives d'essayer de trouver des solutions d'hébergement d'urgence pour les jeunes. Parce qu'il y a aussi la réalité des Jeux Olympiques qui fait que les gymnases, ils vont devoir les récupérer. Je pense qu'ils essayent de redispatcher ces jeunes. Je pense aussi que l'État ne veut pas coopérer. Et que c'est la préfecture aujourd'hui qui est en mesure de réquisitionner des places, peu importe où, que ce soit dans des logements, dans des centres d'hébergement. Et la préfecture, pour le moment, ne le fait pas. Et donc, je pense qu'il y a une entourloupe, oui et non. Il y a une tentative de leur trouver des places. Si la préf ne se bouge pas, les jeunes seront remis dehors.
Et donc, une fois, effectivement, qu'il y a tout ce parcours-là, donc le recours est effectif, donc la juge se prononce finalement sur mineur ou pas. Tu dis, en gros, les trois quarts... C'est bon, ils sont admis.
Oui.
Donc là, c'est quoi la situation ? Donc là, il a droit à quoi, le jeune ?
Bah alors, quand le jeune il est reconnu mineur par la juge, il y a une ordonnance de placement qui est prononcée. Et donc, il est placé à l'aide sociale à l'enfance et est protégé comme n'importe quel mineur en France. Mmh. Donc souvent, ils sont placés là où il y a de la place. Donc ils restent pas tous en Île-de-France, malgré le fait que c'est le seul endroit où ils aient des repères en France, parce que la réalité de l'aide sociale à l'enfance aujourd'hui et de l'Île-de-France, c'est que tout est engorgé. Donc ils sont envoyés là où il y a de la place. Et donc ils sont dans des hôtels sociaux ou dans des foyers ou dans des appartements en semi-autonomie. Dans l'idéal, les procédures de scolarisation sont entamées par l'éducateur ou l'éducatrice, ce qui n'est pas toujours le cas. Et une des choses qui arrive beaucoup, notamment dans le 93, c'est que le département fait appel de la décision de la juge.
Ah ouais.
Et donc là, on repart pour un tour de procédure où, en fait,
sur quelle base ?
En disant, ben non, nous on vous dit que le jeune n'est pas mineur. Vous l'avez mis dans nos services de protection de l'enfance et il n'est pas mineur. Ça arrive souvent dans les deux semaines suivant l'ordonnance de placement ordonnée par la juge, beaucoup dans le 93. Ça se fait pas dans tous les départements. Et donc là, le jeune repart dans une bagarre juridique où il doit partir en cour d'appel, ce qui prend encore 7 mois. Et donc pendant ce temps, aucune démarche n'est effectuée par les éducs. Et donc il n'y a pas de scolarisation, il n'y a rien. En sachant que pour obtenir autre chose qu'une reconnaissance de minorité, c'est-à-dire un titre de séjour, il faut avoir une scolarisation, il faut avoir un contrat, il faut avoir quelque chose. Et donc les jeunes se retrouvent encore une fois dans des situations atroces. Et ça, le 9-3 est professionnel de ça. Ils ont un avocat exprès là-dessus qui fait appel sur tout le monde.
Hein,
ouais, exactement.
Est-ce qu'il arrive des fois que justement ces procédures sont tellement longues que finalement... La minorité que nous, en France, on établit à 18 ans, à la fin, on lui dit, bah non, c'est trop tard, vous venez de passer l'âge.
Oui, ça arrive, ouais. Ça arrive très souvent quand les procédures prennent beaucoup de temps. Par exemple, dans le cas d'un jeune qui... Nous, on a rencontré un jeune il n'y a pas longtemps, il avait 17 ans. Il est passé devant la juge il y a un mois, il avait 17 ans et demi. Il n'a pas été reconnu mineur par la juge. C'est-à-dire que tout ce qu'il lui reste de possible, c'est faire appel. Sauf que faire appel, ça prend 6 mois. Mais dans 6 mois, il est majeur. Et ben donc, en fait, il n'aura jamais de prise en charge par la protection de l'enfance.
Et je crois qu'il n'y a pas un principe que quand tu es pris en charge en tant que mineur par l'ASE, en fait, tu as jusqu'à 21 ans, c'est ça ?
Exactement. C'est pas systématique. Ça a été encadré. Ça s'appelle le contrat jeune majeur. C'est autant pour les Français que pour les étrangers. Après la réalisation, qu'en fait, 70% des personnes à la rue en France sont des enfants sortis de l'ASE. Et donc y avait un réel problème dans le fait de faire des sorties sèches, ce qu'on appelle être mis dehors à 18 ans. Il y a le contrat jeune majeur donc qui a été créé, qui fait que quand on a besoin d'une prise en charge, c'est-à-dire quand on est scolarisé ou en apprentissage, qu'on a besoin de continuer à être encadré, on bénéficie d'une prise en charge par l'ASE jusqu'à 21 ans. Alors ça, c'est pas systématique, c'est loin de l'être même. Tous les départements ne le proposent pas. Paris le propose énormément, par exemple, là où le 9-3 le fait pas. Ce qui n'est pas légal, parce que normalement, il y a une obligation de le faire. Et là, avec la loi Darmanin, ça va encore changer, puisque là où avant le contrat jeune majeur était systématique autant pour les Français que pour les étrangers, aujourd'hui, il y a une règle qui dit que pour un jeune qui aurait déjà reçu une obligation de quitter le territoire français, peu importe dans quelles conditions, il ne sera plus éligible au contrat jeune majeur jusqu'à 21 ans.
C'est la loi immigration qui a été votée, là ?
Ouais.
Et qui n'a pas été censurée ?
Non.
D'accord, on apprend tous les jours.
C'est sur l'aspect éducation, justement, là, je crois qu'au sein du collectif qui se réunit en soutien aux jeunes du parc de Belleville, il était question justement de mettre le paquet là-dessus, d'essayer de faire un peu bouger les syndicats d'enseignants pour que justement il y ait une double démarche, donc la démarche de reconnaissance des minorités, mais également le fait de pouvoir être scolarisé dans un des lycées ou collèges de Paris, quoi. Qu'est-ce que tu penses de ça ? Est-ce que ça peut marcher ? Est-ce que c'est...
Bah, moi, je pense que c'est une très belle initiative, même de réussir à faire converger les syndicats des travailleurs et travailleuses de l'éducation avec les collectifs de mineurs isolés, parce que c'est des questions qui se rejoignent complètement. Pour autant, ça peut pas concerner tous les jeunes. Pour être scolarisé, ça demande des démarches qui sont pas toujours faciles. Il faut avoir une domiciliation, ce que tous les jeunes n'ont pas. Et c'est dur de s'en procurer à Paris des domiciliations, surtout quand on est mineur. Et enfin, ça concerne les jeunes qui ont des solutions d'hébergement plus ou moins stables. Parce que pour se lever le matin, aller à l'école, rentrer le soir et faire ses devoirs, quand on vit sur un campement, c'est presque impossible. Moi, j'ai connu des jeunes qui le faisaient en vivant à la rue. Et en fait, finalement, ils s'endormaient à l'école tellement ils étaient fatigués. Leur seul repas de la journée, c'était à la cantine. Donc, il y a des capacités de concentration et de maintenir une scolarité qui sont presque impossibles pour des jeunes à la rue.
Mais domicilier dans un gymnase ou un foyer, même temporaire, ça fonctionne, ça, avec le rectorat, tu sais, ou...
En fait, il faudrait que la mairie de Paris, quand elle héberge des jeunes dans des gymnases, se mette systématiquement à fournir un document de domiciliation. Et les jeunes des campements l'ont même dit, nous, nos campements, c'est des lieux de vie informels. Dans la loi française, quand un lieu de vie existe depuis plus de 48 heures, il est considéré comme lieu de vie existant. Quand c'est sur les terres parisiennes, il faudrait au moins qu'une domiciliation soit possible en disant « il vit sur le territoire parisien, il vit dans un lieu de vie informel qui est un campement et qui n'est pas une solution d'hébergement ». Ça, c'est une réalité. Et les institutions sont responsables de ça. Mais il ne faudrait pas que ça bloque les démarches des jeunes. Et c'est ce qui se passe aujourd'hui. Les jeunes des campements le revendiquent aujourd'hui. Nos campements sont sous le pont Neuf, sous le pont de Sully, sous le pont Marie. On vit à l'hôtel de ville, on vit à Paris. Donnez-nous des attestations de domiciliation.
Ok. Et ça, ce discours-là, quand vous le formulez devant les agents de la mairie, ça donne quoi ? Ils sont...
En fait, on n'a pas d'interlocuteur à la mairie. La mairie refuse de discuter avec nous. Les seuls moments où on les voit et où on discute avec eux, c'est après des actions coup de poing, quand en fait, ils n'ont plus le choix que de ramener une délégation et de recevoir des jeunes. Et on est dans une telle urgence qu'il est difficile d'aborder ces questions-là, puisque tout tourne en général autour de... Il y a 100, 150, 200 jeunes à la rue. On veut des places d'hébergement, quoi.
Il y a eu un épisode un peu dans les mobilisations qui ont eu lieu ces derniers mois. Donc à l'Académie du Climat, qui est un énorme bâtiment de la mairie de Paris, qui a été confié par la maire à des associations, des groupes de jeunes écolos. Donc il y a eu une occupation de un peu plus d'une journée là-bas, c'est ça ? Et donc j'ai appris que les jeunes, ils ont eu droit juste à dormir une nuit là-bas, hein, et on leur a filé des bracelets. C'est quoi cette histoire ?
Ouais, du coup, dans le cadre de l'occupation de l'Académie du Climat, on a passé une nuit là-bas. On était soutenus par la mairie de Paris au sein de cette occupation. C'est pour ça qu'elle a pu avoir lieu, en fait, hein, et qu'on ne s'est pas fait sortir violemment par la police au bout d'une heure. Et donc, là, il y avait 140 jeunes qui étaient présents au sein de l'Académie du Climat. Les équipes de la mairie de Paris, responsables de l'hébergement et de la solidarité, ont établi une liste de tous les jeunes qui étaient présents afin de chercher des solutions d'hébergement. Et pour éviter qu'on soit tous cloîtrés dans le lieu et interdits de sortir, puisqu'une de nos revendications était de dire nous on dort ici, on sait pas combien de temps, il faut qu'on puisse circuler, aller et venir. Il a été dit que la liste serait faite, qu'il y aurait les 140 jeunes présents qui seraient sur la liste et pour lesquels ils rechercheraient des solutions d'hébergement, mais qu'il serait pas possible d'ajouter les jeunes qui arriveraient par la suite. Et donc ils leur ont mis des bracelets afin que les jeunes y puissent en fait aller et venir au sein de l'Académie du Climat et être reconnus comme on est des jeunes, on est sur la liste et on était bien présents.
Du bracelet de couleur, c'est ça ? Il n'y avait pas d'informatique derrière ? Pas encore, quoi.
Non,
parce que les jeunes se sont bien rendus compte que quand ils débarquent en Europe, déjà, il est sur les empreintes, c'est ouais. Ça ? Donc déjà, ils sont bien fliqués. Toutes ces histoires de papier, c'est aussi pour les cataloguer. Donc là, il y en a vraiment beaucoup qu'on pas supporté, quoi. Encore une fois, de devoir mettre une espèce de bracelet en plastique pour pour les cataloguer, quoi. Il y en a un qui m'a dit on était comme du bétail, quoi.
Mais en fait, c'est vraiment ça, quoi. Et puis sur les bracelets, il y avait des QR codes. Ces bracelets-là, en fait, c'est des vieux bracelets d'un événement parisien. Ils ont dû les récupérer dans des stocks. Et les QR codes n'étaient liés à rien. Mais pour les jeunes, enfin, c'était particulièrement violent. Ils ont dormi à 140 dans la salle des fêtes de l'Académie du Climat. Réveillés à 6 heures. On s'est fait réveiller à 6 heures comme des chiens. On a dû plier les lits de camp, plier les couvertures. Ils ont dû faire la queue à 140 pour un petit-déj. Il y avait même pas assez de petit-déj pour tout le monde. Forcément que dans des conditions de survie comme ça, ça crée des tensions. Et c'est très difficile de faire fonctionner un collectif dans ces circonstances-là. Et donc, en fait, le bracelet, c'était un peu une violence de plus pour les jeunes qui devaient donner leur nom, leur prénom, leur date de naissance, prouver qu'ils étaient bien sur la liste. Ensuite, on leur donnait un bracelet. Et puis, même pour sortir et rentrer dans l'Académie du Climat, malgré les bracelets, enfin, c'était toujours des discussions incessantes. Oui, il est là, oui, on le connaît. Il fallait toujours appeler un des soutiens, un des blancs, qui confirmerait que ce jeune noir a le droit d'entrer, quoi.
Moi, je suis déjà rentré dans ce bâtiment, hein, pour... On l'a pu justement visiter parce qu'on cherchait un bureau pour discuter, quoi. Et on a, en fait, on a vu énormément de pièces vides.
Mais l'endroit est géant.
Totalement vide. Il y a plusieurs, je sais pas, il y a 4 ou 5 étages. Mmh. Il y a une cour intérieure. C'est vraiment un vieux bâtiment.
Exactement. En fait, c'est l'ancienne mairie du 4e, l'Académie du Climat. Mmh. Et aujourd'hui, ça sert à... Alors moi, je pense que les questions écologiques sont très importantes. Ah ouais. Pour autant, je pense que ce lieu n'est pas utilisé comme il devrait l'être. Alors oui, il y a quelques activités pour les enfants, des lycées, des collèges, des écoles primaires parisiennes. Également des arrondissements que la mairie aime cataloguer de défavorisés, de REP+. Ouais. Il y a une inclusion, ils essayent de la faire. Pour autant, c'est un lieu qui est immense. Qui est immense, oui, qui n'est pas utilisé tous les jours à sa capacité maximum. Et rien n'est fait pour accueillir des publics migrants à l'intérieur. Rien n'est fait pour accueillir des personnes à la rue.
Redonnons la parole un instant à Fousseini. Il était lui aussi présent lors de cette occupation éphémère de l'Académie du Climat.
Et donc l'Académie du Climat, c'est un bâtiment... Qui est près de la mairie de Paris.
Justement, en face de la police municipale, genre, en gros, on n'avait pas, c'était pas l'idée d'occuper le lieu. Et l'idée, c'était quoi? On avait un rassemblement qui était prévu devant les parvis de l'hôtel de ville, devant la mairie centrale, et parce que c'était le conseil départemental par Madame Hidalgo, il parlait de ça. On a été dégarpi, on a été dégagé par la police de la préfecture, donc on n'a pas de solution. On est resté des heures à attendre la réponse de la mairie, qui n'a pas voulu nous entendre. Donc l'idée, c'était quoi? C'était d'occuper l'Académie du Climat, qui appartient aux écologistes, qui se disent, voilà, on est là, voilà, nous, on s'occupe de...
En fait, c'est la mairie qui a donné les clés à différents groupes écologistes.
Juste donc... Nous aussi, on se disait, l'idéal, c'est d'occuper l'Académie du Climat pour que la mairie nous attende aussi, qu'on reçoit une délégation de l'ERPA pour les parler de ce que la préfecture a fait. L'Académie du Climat, on a fait une journée, parce que voilà, on avait fait l'action la nuit, on est resté toute la nuit. Voilà, la mairie dit qu'il n'y a pas de solution, mais on peut passer la nuit là-bas, peut-être entre-temps. D'ici...
Mais vous avez passé la nuit, il y avait des pièces vides.
Oui, il y avait plein de pièces vides parce que même il y avait un gymnase qui était en haut de l'immeuble. On est parti visiter l'immeuble, le gymnase, mais bon, on se disait que voilà, si on monte là-bas, on ne serait pas visible, quoi. Ouais. Il n'y aura pas la visibilité parce qu'on veut que la situation soit visible par la presse, les médias, tout le monde. Donc on était obligé maintenant de redescendre. Au rez-de-chaussée, on est resté dans la cour tous ensemble avec des soutiens pour que voilà, la mairie soit là devant tout le monde, qu'on en débatte le sujet ensemble.
Et
ça a duré
jusqu'à la fin de la journée, quoi.
Non, bah, jusqu'à, parce que la mairie était venue, on est resté jusqu'à 1h du matin. Okay. Voilà, par fini, la mairie dit ok, vous restez jusqu'à ce qu'on a interpellé l'État. Donc, ils ont ouvert un gymnase. Le même jour, donc vers les 20h-21h, ils ont envoyé...
Et à l'Académie, ils vous ont pas mis des espèces de QR codes?
Justement, ils ont mis des bracelets en QR, comme ça.
Bracelets en plastique?
Justement, les bracelets en plastique, comme ça, avec les scanners. Nous, les jeunes, nous, on se demandait, c'est quoi les scanners ou c'est quoi les bracelets? Tu mets des choses, on dirait, nous sommes des esclaves quand même, quoi. Voilà. On interpelle.
Vous voulez refuser ça? Comment ça s'est passé?
Bah, du coup, y a des jeunes qui étaient là, qui avaient des bracelets à un moment donné, que la mairie avait refusé à un moment donné de prendre les jeunes qui avaient des bracelets, parce que il y a d'autres jeunes aussi qui avaient d'autres rendez-vous au tribunal, se voir avec les avocats, et machin, des trucs comme ça. Mais voilà, par fin, ils étaient là. Maintenant, à la fin, oui, il y a la police qui était devant la porte, qui personne n'y rentrait maintenant, des trucs comme ça. Il y avait une vingtaine de jeunes qui étaient autour avec les bracelets, qui la mairie disait que non, voilà, vous attendez d'abord, voilà. Il y avait d'autres jeunes qui se sont révoltés, qui ont barricadé la voiture, que la voiture ne partait pas s'il n'y a pas une solution pour eux aussi. La mairie a pris tout le monde qui était là-bas. Et l'action qui a été faite, il y a eu 177 jeunes qui ont été hébergés la même nuit, quoi.
Et pour autant, nous, quand on discutait avec la directrice de l'Académie du Climat, elle était pour le fait qu'on soit là ce soir-là. Et je pense que les équipes étaient ravies, en fait, que ce lieu, il serve à faire de l'hébergement d'urgence à 140 jeunes qui, en fait, allaient passer la nuit sous les ponts. Les camarades qui travaillaient dans la buvette, des jeunes étudiants, je pense, dans un contrat étudiant super précaire, qui se sont démenés pendant 3 heures avec des jeunes à faire à bouffer pour tout le monde parce qu'en fait, la mairie n'avait pas ramené de repas le midi. Enfin, tu vois, la réalité, c'est qu'on a été plutôt bien accueillis dans D'accord. ce lieu. On a pu y passer la nuit et je pense que même les gens qui y étaient, ils se disaient ouais, bah, pour une fois qu'il sert quoi. C'est ça. En fait, ce lieu ne sert à rien. Mmh. Et je pense que ce serait bien qu'il y ait une remise en question quoi, vis-à-vis de ça, depuis le moment où on y est allé et qu'ils se mettent à organiser des choses.
Ouais, parce que c'est vrai que l'accueil, on m'a dit aussi que l'accueil était plutôt sympa, mais après, c'est quand même scandaleux que vous soyez dégagé aussi vite sans qu'il y ait, je sais pas, de démarche de solidarité au sein de ce lieu-là. Avec des gens qui depuis des années en fait sont là gratuitement, enfin je veux dire gratuitement, oui, sans contrepartie, j'ai envie de dire. Peut-être qu'entre eux maintenant ils en discutent en disant bah tiens, on a comme raté l'occasion de faire je sais pas une action vraiment politique en disant bah nous on est d'accord pour qu'il reste et on fait tout pour qu'il reste et donc on fait je sais pas on bloque et ça s'est pas encore passé ça. Tu
vois, ah oui, moi quand je dis qu'on a été plutôt bien accueillis, je parle à l'échelle d'une occupation à Paris. Ouais. C'est-à-dire qu'on s'est pas fait insulter. Ouais. Voilà, mais après, soyons aussi très honnêtes, les conversations avec les équipes de l'Académie du Climat, notamment la matinée, étaient complètement lunaires. Enfin, on disait aux jeunes qui étaient en train de pioncer sur le sol de la salle des fêtes, il faudrait sortir, on a besoin de la salle pour les activités des enfants. Et les jeunes leur disaient, mais est-ce que vous êtes en train de sérieusement nous dire d'aller dans la cour ? Il pleuvait ce jour-là. On leur disait d'aller dans la cour intérieure, qui n'est pas protégée, hein, elle n'est pas à l'abri, pour que les activités des enfants liées à l'écologie se tiennent dans la salle des fêtes, sans même proposer aux jeunes, je sais pas, de les inclure dans l'activité, par exemple, tu vois. Rien. On leur a dit, oui, mais vous savez, nous, on a un emploi du temps, là, les salles, elles sont prises, il faut que le lieu y tourne. Et les jeunes leur ont dit, à juste titre et à raison, en fait, on va bouger nulle part. Nous, on mérite pas moins que les gosses qui viennent faire de l'origami et parler des arbres à être à l'abri. On vit à la rue, on est malade, on est fatigué. Vous nous avez réveillés à 6h ce matin et vous nous demandez d'aller dans les coursives pas chauffées et dans la cour. Enfin voilà, c'était ça les discussions aussi avec les équipes de l'Académie du Climat qui, en fait, parce qu'on a fait pression, parce qu'on a négocié, parce qu'on n'a rien lâché, on finit par ouvrir d'autres salles, ouvrir la buvette, etc. Mais voilà, on s'est pas fait virer. Pour autant, ils ont pas décidé d'ouvrir grand les portes avec les banderoles des jeunes, avec nous laisser tracter, avec le fait de en fait se mettre derrière nous et de dire on est d'accord avec eux. Non, ça ne s'est pas passé. Et c'est pour autant ce qu'on aurait espéré attendre de personnes qui se revendiquent du militantisme écolo.
Vous avez de la sympathie, mais pas forcément de solidarité.
Exactement.
La sympathie, à un moment donné...
Et la sympathie, marre, bah, en fait, elle n'a jamais mis personne à l'abri. Et c'est de ça qu'on avait besoin ce jour-là, quoi.
Donc là, aujourd'hui, là, on est début mars. Il y a la pression à mort pour les JO.
Ouais.
Et est-ce que tu as l'impression que c'est un prétexte en plus ou ils n'avaient pas besoin de ça pour faire chier tout le monde, tous les jeunes qui sont dehors ou...
Honnêtement, ils n'avaient pas besoin de faire ça. Ils n'avaient pas besoin de ça pour faire chier les jeunes dehors. Le harcèlement policier, il n'est pas arrivé avec l'annonce des JO. Les démantèlements illégaux de campements ne sont pas arrivés avec les JO. Pour autant, ça aggrave énormément la situation, notamment en termes de présence policière.
Et pas que sur les campements. Par exemple, le port de la Villette, c'est la plus grosse distribution alimentaire pour les publics à la rue. Aujourd'hui, il y a des flics partout qui contrôlent à la sortie du métro, contrôlent à la sortie du tramway. C'est des OQTF qui tombent, c'est du harcèlement policier. Les jeunes, ils ont peur, ils osent même plus y aller, quoi. Et on parle de distribution alimentaire. Il y a eu l'interdiction de distrib dans les quartiers de Stalingrad et La Chapelle il y a quelques temps, qui disait qu'en fait, c'est ça qui crée les lieux de vie informelle, le fait que les assos distribuent de la nourriture. Ça, tu vois, ça n'avait, on n'avait jamais interdit des distributions alimentaires dans les quartiers nord de Paris avant l'annonce des JO, quoi. Donc on sent que ça sert, on sent que ça se tend, on sent aussi qu'il y a un bras de fer entre la mairie et la préfecture sur que faire des publics sans abri. Pas seulement les publics migrants, mais ça, je pense que c'est la question principale. Il y a les orientations en région.
Ça a été annoncé, ça, ouais. Ils vont dégager tout le monde en région pour...
Bah, ça a commencé, hein. Ça a commencé, les orientations vers des SAS, qui sont en fait, ça s'appelle les SAS régionaux en province, quoi.
SAS, c'est ça ?
Ouais, sans... SAS.
C'est que service.
C'est service d'accueil de je sais pas quoi. Ouais. Et ça, ça a commencé. Ils le font avec des personnes qui sont potentiellement éligibles à des demandes d'asile. Ils l'ont fait avec des personnes sans-abri françaises. Il y a aussi, enfin, je veux dire, là, on parle des publics migrants parce qu'on parle des mineurs isolés étrangers, mais les travailleuses du sexe, à titre d'exemple, sont discriminées et victimes de harcèlement policier et de violence encore plus qu'elles ne l'étaient avant. Enfin, c'est tous ces publics-là, les publics consommateurs de drogue, qui sont en souffrance totale et reculés toujours plus derrière les murs de Paris. Là, ça s'aggrave avec les JO. Donc voilà. Et le bras de fer entre la mairie et la préf, il est réel. Et nous, on le sent à l'échelle des mineurs isolés étrangers. Par exemple, là, il y a la Seine qui déborde. Il y a eu des crues. Il y avait 250 jeunes qui survivaient sur des campements sous les ponts qui ont été inondés. Et donc là, ça fait un jour et demi, deux jours presque, que les jeunes ont été montés en haut, donc sur le pont, là où la route, elle a été barrée, parce qu'en fait, c'est pas possible de circuler, et que la mairie et la préf s'embrouillent pour savoir qui va mettre à l'abri qui. Et moi, j'ai de la place, mais moi, j'ai pas de place. Et la préf répond, moi, je sais pas ce que c'est des mineurs non accompagnés, ils sont soit mineurs, soit majeurs, pas entre les deux. Et donc, y a rien, quoi. Y a rien. Et l'occupation de l'Académie du Climat... La mairie s'en est servie aussi dans son bras de fer avec la préf. C'est-à-dire que la mairie qui nous soutient dans cette occupation d'un bâtiment qui lui appartient, c'est pas pour rien. C'est qu'on est dans un contexte politique où, en fait, ça se bagarre pour savoir comment on va faire, comment ça va s'organiser. Et la mairie s'est rangée derrière cette occupation pour dire à la préf, c'est votre bordel, gérez-le. Et en fait, la vérité, c'est que la préf n'a rien géré et que les gymnases ouverts, c'est la mairie qui les finance, c'est la mairie qui les a ouverts et que la préf n'a jamais répondu. Donc l'État bloque.
Non mais c'est constamment le jeu des c'est à toi, c'est à moi, quoi.
C'est ça.
T'as peut-être un truc à rajouter qu'on n'a pas abordé, qui tient à cœur.
Ouais, bah moi je pense que ce qui est très intéressant à voir là dans la séquence actuelle, c'est que pour la première fois dans l'histoire, il y a un collectif de mineurs isolés qui s'est créé, où ils ont décidé de lutter pour leurs droits eux-mêmes. Et ça fait plusieurs mois maintenant qu'ils ont enchaîné les actions, qu'ils ont été soutenus par des militants solidaires du 20e arrondissement de Paris, par des militants politiques. Et on voit que ça fonctionne, que l'auto-organisation, elle n'est pas facile quand on est des publics aussi précarisés, en mode survie constante, mais qu'ils essayent et que... On voit que ça fonctionne et on voit qu'il y a tout un travail politique qui est en train d'être fait et on en parle d'eux. On les voit. Médiatiquement, on les voit. Ils se sont rapprochés des collectifs de sans-papiers. Vendredi, on a fait une manifestation. Il y avait les mineurs, il y avait les collectifs de sans-papiers. Ensemble, les collectifs de sans-papiers ont demandé une délégation à la préfecture qui inclurait des mineurs isolés. Tout ça, ça n'avait jamais existé. C'est nouveau. Je pense que la situation politique actuelle nous force aussi à en arriver là. Mais je pense que c'est aussi beau et c'est intéressant de remarquer que les jeunes ont arrêté d'être passifs face à leur situation, ne dépendent plus uniquement de l'aide associative, mais ont aujourd'hui tout un pan politique entre leurs mains, font un vrai travail de réunion, d'assemblée générale, d'organisation, de gestion, de logistique et de récolte de fonds pour faire tourner leur mouvement. Et c'est important, je pense, de se mobiliser à leur côté et de soutenir cette initiative parce que l'auto-organisation, c'est difficile. Ça coûte cher en temps, ça coûte cher en argent, ça coûte cher en énergie. Et ils le font. Et quelle excuse nous, on a à ne pas le faire avec eux? Je pense aucune.
Pour Tara, qu'est-ce qu'on peut dire? Il y a des moyens de vous aider pour faire des dons, je ne sais pas,
Ouais, bah nous on peut nous trouver sur la page Instagram Centre Tara, notre site internet il sera bientôt prêt. Comme je l'ai dit, nous on est la seule association d'Île-de-France à financer le fait de faire venir des documents d'état civil des jeunes de leur pays d'origine jusqu'en France. On est également les seuls à financer le fait d'envoyer de l'argent aux familles pour qu'ils puissent faire éditer ces documents, parce qu'en fait ils les ont pas toujours, et tout ça ça a un coût, c'est cher, et sans ces documents là les recours des jeunes ils avancent pas, les procédures sont bloquées, et donc voilà, on a besoin d'argent. Nous, on refuse de demander de l'argent au gouvernement, on refuse de demander de l'argent à des fonds privés. Donc, c'est difficile de s'en sortir quand on ne fonctionne que par des dons de particuliers. Donc, voilà, si vous avez un peu à donner, n'hésitez pas. Et si vous avez du temps à donner, contactez-nous aussi sur Instagram.
Merci. Merci beaucoup.
Et toi, actuellement, c'est quoi ta situation? T'es hébergé où, là?
Moi, ma situation, je suis dans un gymnase, dans le 12e, la station Montgalais. Nous, on a été hébergé depuis le mois de décembre parce qu'on avait fait l'action à la mairie centrale. Donc, nous sommes sous la responsabilité de la mairie centrale, mais qui se disent que voilà, on est là-bas jusqu'à la fin de la trêve hivernale. Et presque, moi, je dis que la date est déjà fixée, que le 30e mars, qu'ils vont nous remettre tous au dehors. Et voilà, on est là aussi. On a interpellé la mairie pour qu'il y ait une délégation qu'on va discuter un peu de la situation, de parler un peu des revendications, parce qu'il y a plein de jeunes qui sont là, qui ne parlent pas le français, qui sont illettrés et qui veulent s'intégrer. Mais pour s'intégrer, il faut aller à l'école. Voilà. Mais voilà, pas de solution pour ceci-là. Et la santé se dégrade aussi. Beaucoup de jeunes qui dorment au dehors, que l'air santé se dégrade, il n'y a pas de solution pour la santé aussi.
Voilà, c'est sur ces mots que se termine cette émission. Merci mille fois au collectif des mineurs isolés du parc de Belleville, comme au collectif 20e solidaire avec les migrants et migrantes. Merci bien sûr à Kaina du centre Tara. Pour les contacter et rejoindre la lutte, renseignez-vous sur leurs actions qui sont généralement annoncés sur Paris Lutte Info, notamment. Le collectif 20e solidaire a un mail, c'est 20e solidaire 20eme solidaire @gmail.com. Pour aider le centre Tara dans ses actions, le site centretara.fr et le compte Instagram @centre.tara. Avant de rendre l'antenne, un petit point d'agenda. Samedi prochain, le 16 mars, c'est le jour de la grande marche annuelle contre les violences d'État, une marche organisée par le réseau d'entraide Vérité et Justice. Vous trouverez toutes les infos sur leur page Facebook notamment. Rendez-vous samedi 16, donc à 13h12, place de la République, pour un cortège qui partira vers Gare du Nord jusqu'à la place Stalingrad. Et demain, samedi 9 mars, si vous êtes dans les parages, à la bibliothèque associative de Malakoff, la BAM, c'est à 19h, une rencontre avec l'association des amis de Maurice Rachfus. Cela fera l'objet d'une prochaine émission. Les amis d'Orwell, c'est une semaine sur deux, les vendredis à 21h sur Radio Libertaire 89.4. Nos podcasts sont à retrouver sur le site de Radio Libertaire, radiolibertaire.net, radio-libertaire.net, et nos podcasts sont archivé sur le site saurier.info, saurier EZ. Voilà, bonne fin de soirée sur Radio Libertaire.
La justice, elle n'est pas faite pour autre chose que d'enregistrer au niveau officiel, au niveau légal, au niveau rituel aussi, ces contrôles, et qui sont assurés par la police. La justice est au service de la police.
Sono le 22:30.
Les
tonta, nerviosa.
Radio Libertaire. Bonsoir, bonsoir à toutes, à tous, à tous. Bref, à tout le monde, quoi. Qui est de l'autre côté du transistor à nous écouter ces vendredis soirs et nous voilà de nouveau à l'antenne de Post Non Radio Show. C'est le club des malveillants ce soir. C'est le club des malveillants ce soir. Attention, ne détruis pas le matériel qui est déjà.
Oh, il arrive à voir à travers les murs.
Oui, oui, tout à fait.
Qui est déjà
bien amoché.
Qui fait déjà la gueule, et ça, j'en parlerai tout à l'heure, deux petites secondes quand même pour préciser aux auditeurs qui se donnent la peine d'écouter cette émission. Et c'est normal, nous sommes géniaux, je suis génial. Non, je plaisante. Non, rien qu'un peu. Donc on est de nouveau en direct. Est-ce que je viens de le dire? Je ne sais pas.
Oui.
Je me répète déjà.
Oui.
Waouh, super Gaga. Ok, super Gaga. Super Gaga ce soir est avec Super Serge.
Salut Henrik.
Salut, il est avec Super Guy qui est de retour.
Salut Henrik, salut à tous.
Et il est avec Super Yves qui est aussi là.
Bonjour Henrik, bonjour tout le monde.
Bonjour tout le monde. Ne commence pas à manger TR. T'as dit bonjour tout le monde.
Bonjour tout le monde.
Bonjour tout le monde, voilà.
Ben, je fais pas exprès, j'ai mon accent parisien.
Mais je sais bien.
Je sais trop quoi.
Je savais pas que l'accent parisien consistait à manger CR, mais bon.
Ben, parce que t'es pas de Paris.
Non, je suis pas de Paris. Je suis du 7-7.
Ah,
de Seine-et-Marne.
Ah, je croyais que t'étais du 9-4. Hein.
Ah oui, c'est vrai, je suis du 9-4.
Bon, non, mais ça se touche.
Je suis du 9-4, mais je viens du 7-7. Enfin,
voilà.
Ça fait très longtemps que j'habite plus le 7-7. Hein. Ouais, Radio Libertaire, 89.4, la radio de la Fédération Anarchiste, The Post Non-Radio Show, radio-libertaire.org, anarchiste.info, sur le DAB+. Alors moi j'ai eu des soucis pour écouter en DAB dans le 9-4. Faut vraiment orienter l'antenne. Hein.
C'est vrai. Parce qu'on n'est pas assez puissant.
Mais il y a un projet. C'est d'un chiant.
Il y a un projet de rajouter un second relais dans les prochains mois.
Voilà. Que j'écoutais là, c'était samedi dernier. Écoute, j'ai fini par écouter sur l'ordi parce que non, j'ai fini par écouter en FM, je crois.
FM, bien sûr, oui.
Je sais plus, mais ah non, parce que je suis pas arrivé de passer en DAB du DAB en FM sur mon poste. Alors là, le mongol total, quoi. Je me suis énervé sur le poste. Je trouvais plus comment commuter de l'un à l'autre. Bon, bref, tout ça m'a fait chier. J'avais pas envie de chercher la notice. Je sais plus où elle était. Donc, j'ai trouvé ça super chiant. Ça coupait toutes les deux secondes, quoi.
Bien sûr.
C'était, mais bon.
Ah, c'est le désavantage du DAB+, c'est que où ça passe, ou ça passe pas. Voilà.
Et donc, voilà. Donc,
c'est du numérique, c'est normal.
Donc, je suis là à me gargariser, à annoncer à tout le monde, ouais, il y a le DAB+, gna gna. Et en fait, le DAB+, il est branlant, quoi.
Bah, tu vois arriver à 0, puis après à 1-1, puis après à 0, 1-1-1, 0-0-1-1. Tout ça met du temps, mais s'il y a un peu de retard,
bon, okay, ça s'accumule. Ok, on va le remettre dans son sarcophage.
Ok.
Donc,
non, pour le DAB+, on a simplement, c'est le problème, c'est qu'on n'a pas assez de puissance.
Oui,
simplement.
Non, mais vous pouvez l'écouter, mais bon, voilà. Ça dépend des endroits, et bien orienter l'antenne.
Voilà.
Parce que sinon.
Autrement dit, ça n'a pas changé depuis les ondes courtes.
Quoi. Non, ça n'a pas changé depuis 1932, en fait.
Voilà.
Voilà.
32.
Donc, je peux faire une dédicace, Henrik?
Non, t'as raison, non, parce que sinon j'étais parti là dans des considérations de vieux schnock.
Deux personnes qui nous écoutent,
de vieux schnock malfaisant.
Et je dédicace un petit coucou à Nora et puis un petit coucou à Marc. Voilà, deux personnes qui nous écoutent ce soir. On a deux auditeurs ce soir.
Nora, on sait que c'est ta voisine. Bonsoir Nora, que je connais aussi. Et Marc, qui sait?
C'est un pote. C'est un pote.
On veut tout savoir. Tu couches avec lui.
C'est un pote.
Où sont passés les formulaires de dénonciation? J'ai oublié.
il fait pas son travail.
Tu me l'avais pas dit. Je veux tout savoir.
Il veut tout savoir.
Voilà. Ok, je l'ai dit. Le club des malfaisants ce soir. Voilà.
Okay. Bah on va changer de programme alors, très bien.
Okay. Non mais tu te crois où ici? Tu te crois sur France Inter? Oh oui, sur Nya 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 Radio? Oh,
c'est bien, ça.
Prout FM?
Prout FM.
Ah, ça va quoi. J'en ai marre de tout ça quoi. Bon alors,
et le rire, tu l'as enregistré là ou c'est naturel?
Non, c'est un rire. Ouais, bah oui. On ne sait pas d'où il le sort.
En tout cas, ça domine bien les crapauds en arrière-plan. Hein.
Ça suffit.
Il ne veut pas arriver, il veut pas arriver à faire sa présentation.
Oui. Non, non. On veut la présentation. On veut.
Oui, parce qu'en plus.
Les nouvelles de la librairie publique.
Oui, parce qu'en plus, il a eu. C'est là. Le 8 mars, c'est la journée mondiale du droit des femmes.
Voilà.
Voilà. Et donc, j'ai prévu pendant un mois une... Alors, je vais arrêter de hurler comme ça, là. Enfin, en plus, je me réécoute, tu vois. Oh, je me dis, mais mon Dieu, mais qui c'est ce type avec cette voix horrible? Bah, c'est toi, quoi. Je me dis, mais c'est moi, quoi. Bon, je vais essayer d'adoucir ma voix et d'être... plus apaisé que ça. Donc oui, c'est la 8... non, c'est pas la 8e journée des... Non. C'est le 8 mars, la journée mondiale des droits des femmes. Et donc, j'ai prévu ce soir et aussi également pendant le mois de mars, toute une programmation musicale autour de, des femmes, des artistes femmes, féminines, femmes quoi. Bref, merde. Et particulièrement en vinyle. Pas les femmes, hein, les disques. Mmh. Et donc, petite précision, ce soir, il n'y aura pas d'enchaînement somptueux, comme je sais les faire, entre deux disques de vinyle, puisque une des deux platines m'a lâché, ne fonctionne pas ce soir. Donc, je vais me démerder gentiment avec une seule platine. Je vais faire en sorte que personne n'y voit du feu, mais comme je l'ai dit, tout le monde le sait maintenant.
Voilà.
Donc voilà, c'est comme
le
ça.
Le message est passé.
C'est les aléas de Radio Libertaire, prout prout.
Il a plombé sa platine.
Non, j'ai rien fait du tout.
Non, il a rien fait du tout.
J'ai rien fait du tout. Il y a un problème. Il y a un problème de connectique avec la table de mixage. Donc avec la mixette des platines vinyle, parce que la platine fonctionne. Mais il n'y a rien qui passe dans la mixette. Voilà, vous
moi,
savez tout.
Je trouvais ça marrant, moi, plomber le platine.
Vous savez... Vous...
je viens de comprendre.
Oui, plomber la platine, c'est pas mal.
Ça suffit, stop.
Ah, on fait ce qu'on peut, c'est le début de la soirée. Non, comment ça fait? Je n'entends plus rien.
Non, il n'y a que moi qui suis drôle ici. Donc, voilà, bon, bah, c'est comme ça. Hein. On fait avec... Plus. Je n'ai pas de programmation de secours.
Tu l'as enfoncé plus?
De.
Oui. Voilà, oui.
Non, mais arrêtez, vous êtes dissipé là.
Oui. Ouais. Donc, Henrik, tu vas passer deux fois moins de musique alors, non?
Non, 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 je... non, pas de question.
Ah, d'accord, oui.
Je vais passer, déjà, il n'y en a pas énormément, donc je vais tout passer, mais je vais tout passer très tranquillement. Il n'y aura pas ces somptueux, comme on appelle ça... ces somptueux mixages entre deux morceaux que je fais.
Comme on disait l'autre déjà, sans transition.
Oui, sans transition.
Sans transition.
Le morceau suivant.
Ça avait du succès.
Ok, non, ouais. Non, bon, ok. Donc, la journée mondiale des femmes, c'est fait. La programmation en vinyle du mois de mars et de ce soir, c'est fait. La platine qui a lâché, c'est fait. Nous passons au... Oh, tais-toi, l'oiseau. oh, c'est vrai, il m'agace. Je crois que je vais mettre la mer.
Ils sont avec toi dans le studio, là?
Ah
sont...
ouais,
j'ai
une de ces volières, là.
Perroquet et tout, oui.
Donc, je mettrai la mer après, parce que ça m'agace ce soir. Je suis déjà passablement irrité. Irrité de n'avoir qu'une seule platine.
Je te rappelle que la dernière fois où tu as cru que c'était la mer, c'était en fait un chariot élévateur en train de descendre du plafond.
Non, ça c'est dans le film qu'on a vu cette semaine.
Oui.
C'était très sympa d'ailleurs.
Oui.
Mais arrêtez.
Laissons-le faire son émission.
Je suis déjà contrarié d'être monoplatine ce soir.
Donc,
non, mais ça m'amuse pas, hein, ça m'amuse pas.
Les infos de la librairie Publico.
Oui, en plus, les infos de la librairie Publico. Attendez, j'ai la goutonnée. Où est mon mouchoir?
C'est, voilà. On pense qu'on est en direct. Hein.
Ah, ouais, non, mais.
Voilà. Donc,
non, mais j'ai reniflé.
Voilà.
On dirait un vieux con, là. Il y a vraiment le vieux schnock. Ah putain, le vieux schnock est cariâtre. Samedi 2 mars.
Mars féministe.
16h.
Samedi 2 mars.
9 mars.
Ah, le 2 mars est passé.
Oui, le
2
mars
est passé. Ok, d'accord. Bon, alors, du 3 au 31. Non, mais ça va, je suis perturbé là.
Ah ouais.
Du 3 au 31 mars, la révolte des femmes chiliennes. C'est une exposition de photos de Monica Journet qui apparemment a décidé de squatter ad vitam aeternam la librairie. Et le vernissage a eu lieu le dimanche 3.
Oui.
Je passe sur le mardi 5 mars, qui est passé. Je passe sur le jeudi 7 mars, qui est passé. Et nous voilà au samedi 9 mars. 18h, 21h, DJ7, libertaire et féministe, des Girls in Noise. Alors j'espère qu'elle ne sera pas monoplatine, elle aussi. Puis dimanche 10 mars, 16h, poème féministe de devinez qui ? Monica Journet. Ouais, à mon avis, elle habite dans la librairie, Monica. Hein. Mardi 12. Mais attendez, c'est pas passé dimanche 10 mars ? Non.
Non.
Non, mais.
Non,
ah oui, on est le 8.
On est le 8.
Oh là 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 là.
C'est-à-dire, c'est.
T'inquiète pas, on te soutient.
Oui, j'ai besoin, je m'écroule là.
Ben oui.
Mardi 12 mars, 19h, présentation débat de femmes, chômage et autonomie des droits sociaux pour abolir la précarité et le patriarcat de Odile Merkling. Puis, vendredi 15 mars, concert, 19h, les femmes auront des noms de fleurs. Bertrand Ferrier chante Mama Bea Tekielski. D'ailleurs, j'ai pas de disque de Mama Bea Tekielski. Je crois que je vais avoir un morceau quelque part.
Oh oui, c'est bien.
Je l'aimais bien.
Oh, Mama Bea.
Et
oui,
c'est vrai que
oui.
j'ai pas pensé. Je crois que j'ai un morceau qui traîne, mais je sais plus trop où.
Oui, oui.
Si je le retrouve, mais bon, ça m'étonnerait puisque. J'ai déjà bouclé toute ma programmation du mois de mars. Enfin, ceci dit, je sais plus où je l'ai ce morceau. Bref, j'arrête de parler tout seul pour moi-même.
Moi aussi, j'ai ça quelque part, mais bon, oui.
Je dois rajouter quelque chose. Le samedi 16, à 16h, il n'est plus question de femmes, il est question de... d'une après-midi Stig Dagerman qui sera animé par Thierry Maricourt qui présentera le livre Le rire caché de Stig Dagerman de Claude Lemanchec et qui sera suivi d'une lecture spectacle de textes de Stig Dagerman. Avec notre besoin de consolation est impossible à rassasier et autres fragments d'humeur. Et puis quoi d'autre? Je crois que pour l'instant, je ne sais pas si toi tu parleras de d'autre chose, Guy. Mais moi, pour l'instant, c'est tout ce que j'ai. De mon côté.
Bah oui, c'est pas mal déjà, oui, parce que ça va jusqu'au milieu du mois, hein, déjà, donc le 15. Après, faut aller voir sur le. On peut y aller soi-même aussi, hein, bien sûr. En plus, nous, on répétera, effectivement, on redonnera ces informations. Mais sinon, vous êtes libre pour aller sur le site hein, de la librairie Publico. Hein, voilà.
Oui.
Ouais. Donc, j'ai enchaîné sur le 46e Festival International de Films de Femmes de Créteil.
Oui, c'est ce que je t'ai demandé de faire pour que je puisse y aller un
tout à fait. Et du Val-de-Marne. Donc, c'est à partir du 15 mars jusqu'au 23 mars. Et je vais vous dire l'édito de Jackie Buet et son équipe, qui sont les organisateurs de cette manifestation. Des épreuves, les femmes en ont traversé et remporté dans beaucoup de domaines. Ceux du sport et du cinéma seront nos terrains d'aventure en mars 2024. Il y a de l'endurance dans le parcours des grandes sportives, comme dans celui des réalisatrices, un vrai désir de victoire et de succès. Des médailles et des produits à la clé, nous sommes mobilisés pour atteindre l'excellence dans ces deux enjeux, réaliser et se réaliser. Une édition 2024 tournée vers la découverte avec une sélection bouillonnante et fantastique en compétition et en section parallèle du cinéma queer européen détonnant et un programme spécial de films dédiés aux femmes et au sport avec de nombreuses animations de rencontres, un colloque et des ateliers pratiques. Alors le thème de cette année, c'est Olympe se bouge, c'est le slogan porté
c'est un jeu de mots avec Olympe de Gouges.
Voilà, c'est ça exactement. ils disent en attendant, entraînez-vous, marchez, courez, respirez et filmez. Et on vous attend de pied ferme pour partager l'événement Olympe se bouge. Voilà. Je jette un œil sur le programme, en tout cas sur le premier jour du programme, à l'ouverture du festival, en présence des membres des jurys et des invités. Et il y a le film de Ida Lupino.
Oui, une des premières grandes réalisatrices hollywoodiennes, qui était aussi actrice.
Alors ça s'appelle Art, Fast and Beautiful. Ça date de 1951. Ça raconte l'histoire d'une jeune joueuse de tennis qui est déchirée entre les projets ambitieux que sa mère et son entraîneur nourrissent à son égard et sa récente rencontre avec un garçon qui partage cette même passion pour ce sport. Voilà, ça, le premier film en tout cas, c'est à 20h30 à la Maison des Arts de Créteil, donc vendredi, pour l'ouverture du festival. Je pense que...
Je pense que mon morceau est calé, merci voilà. Serge, au revoir. Allez, à la prochaine.
Allez, salut. Musique.
Très bien, c'était très bien.
Merci.
Elles vont être super contentes à Créteil.
Ah oui, je pense, oui.
Ouais, t'as bien fait. The Post Non-Radio Show. C'est le Catastrophe Club ce soir. Radio Libertaire. Ouais, Radio Libertaire. Alors, messieurs les malfaisants.
Oui. Est-ce que je peux ajouter, puisqu'on vient de parler du festival du film de femmes.
Ah bah tu t'es investi, on dirait.
Oui, je vais juste donner les détails pratiques.
Bon alors dis-moi, tu couches avec Marc.
La conversion du ciel.
Alors, donc voilà, je suis complètement déstabilisé, mais c'est pas grave. Mais c'est pas grave. Bon, ça se déroule donc à la Maison des Arts de Créteil, place Salvador Allende. Si on dit Allende, non?
Oui, on dit Allende.
On dit Allende en espagnol.
Ouais, oui. Ça va.
Allende, oui, oui.
Pas la peine de mordre.
Oh. Là, je croyais qu'il parlait chilien ou chilien.
Donc voilà, pour faut se renseigner sur le www.filmdefemme.com. Et la Maison des Arts de Créteil. Alors, c'est le métro ligne 8, station Créteil Préfecture. Il faut d'abord accéder au centre commercial par la sortie droite du métro, traverser le centre commercial, ressortir porte 25. C'est proche de Carrefour au même niveau, pour rejoindre la place Salvador Allende. Voilà. Ouais. Il y a un retour gratuit en navette assuré en soirée, dans la limite des places disponibles. Voilà. Jusqu'à la place de la Bastille et celle du Châtelet. Voilà.
À l'âge de Maps, je suis surpris qu'il n'y ait pas un QR code à la place de toutes ces applications.
Pour l'instant, mais... non. Je n'ai pas vu de QR code sur la documentation. Non. Donc voilà. Donc je n'ai pas vu. Je sais que, par contre, je peux préciser qu'il y a notamment comme personne intervenante Léa Drucker, Sophie Filière, Monica Treut. Et Vanessa Springora, par exemple, et également Marie-Ange Luciani, qui est productrice.